Unis, il en parlera peut-être, la stratégie américaine pour dominer idéologiquement le monde et mettre tout le monde à son image. On allait intervenir aussi pour un livre qu'il avait écrit qui s'appelle « Du Bougnoul au Sauvageon ». Vous savez que la France est un empire colonial et a utilisé beaucoup de la chair à canon de ses colonies, aussi bien arabes qu'africaines. Et comme René est né en Afrique, comme moi, dans un petit village qui s'appelle Kaola, on a l'impression, j'ai l'impression qu'il avait peut-être une reconnaissance à ce pays du Sénégal qui nous a donné une culture, moi je pense, plus ouverte, parce qu'elle acceptait toutes les différences. Et on a eu l'occasion de faire venir à l'Utopia aussi pour un... Alors, on a fait venir pour Le Bougnoul au Sauvageon, c'était un film de Sembène Ousmane, qui est un Sénégalais, qui a fait un film qui s'appelle Le Camp de Tcharoï. Hein, si vous vous rappelez, le camp de Tcharoï, c'est un camp qui a été détruit par l'armée française, où tous les papiers des colonisés ont été perdus. Et quand il a fallu refaire les pensions, la France a manipulé énormément de choses pour pas payer le maximum à ses vieux combattants. D'ailleurs, à Bordeaux, il y en a encore qui traînent dans les rues, les Marocains qui ont malheureusement participé à la guerre et aujourd'hui ils sont au RMI à Bordeaux, ils ne peuvent pas quitter Bordeaux, ils ont leur famille là-bas. Et on a été venu aussi pour un film sur la manipulation idéologique par les télévisions, et on a eu à traiter le problème libanais. Il avait fait donc un livre qui s'appelle Rafik Hariri, homme d'affaires, premier ministre. On aura peut-être l'occasion d'en parler, ou sinon, c'est une question à rien. Voilà donc, et puis pour ceux qui écoutent la télévision, régulièrement, René intervient sur la clé quand il y a des événements importants qui se passent au Royaume-Uni, il y a toujours, mais quelquefois, l'actualité est tellement projetée sur un fait, et bien on demande l'avis à René pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il fait, parce qu'il a été quand même longtemps journaliste à l'AFP et à l'Aigot, presque 10 ans. Il a travaillé à Radio Monte Carlo, conseiller du directeur général sur la question du Moyen-Orient, et puis on l'a remercié de ses services.
Je l'ai été utilisé en cuisine pour couvrir les erreurs des autres.
Voilà. Bon, alors maintenant, il est écrivain journaliste et il vient de sortir un livre, Aux origines de la tragédie arabe. C'est pas pour le vendre, mais je vous le conseille parce que si vous êtes intéressé par la question du Moyen-Orient, je crois que c'est un livre assez complet sur ce qui se passe là-bas et quelles sont les différentes stratégies et comment la politique vis-à-vis du Moyen-Orient se fait dans les pays occidentaux. Alors, avant de démarrer, j'ai sur ce livre, en général, on dédie le livre à son épouse parce qu'elle supporte les énervements. Le mari qui se crispe devant la page blanche. On remercie souvent ses enfants, on le dédie à ses enfants parce qu'il faut bien leur donner un héritage. Quand on n'a pas d'argent, et puis on doit leur essayer de transmettre l'intelligence. Et cette fois-ci, dans ce livre, il y avait rien. Alors j'ai regardé, puis j'ai vu. Afin que leur sacrifice revive dans notre mémoire et que leur supplice serve de levier à la rénovation du monde arabe, cet ouvrage est dédié aux personnalités suivantes. Et puis il y a toute une liste de noms. De l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, et d'autres personnes. Et quand je regarde sur le Liban, je jette un coup d'œil, je ne vois pas Samir Kassir. Parce que, hein ?
Il n'y a pas Samir Kassir ?
Non, il n'y a pas Samir Kassir. Alors, Samir Kassir, pour les Occidentaux, c'est la victime principale de ce pays bouleversé. Alors, la première question... qu'on peut se poser, puisque quand on regarde sur Internet et quand on regarde dans une librairie, on voit toujours Samir Kassir, Samir Kassir, Samir Kassir. Alors explique-nous un peu pourquoi il n'a pas dédié ton livre à ce militant de la liberté.
Attends, mais parce que moi je l'ai dédié afin que leur sacrifice revive dans notre mémoire et que leur supplice serve de levier à la rénovation du monde arabe. Je l'ai dédié à ces personnalités-là. Il n'y est pas, c'est que visiblement il doit être le contre-exemple de tout cela. Il ne faut pas aussi se leurrer entre la construction d'un mythe selon un schéma occidental, parce qu'une personnalité peut servir des intérêts politiques et la réalité vécue par la perception de l'opinion arabe. Samir Kassir a été un compagnon de route du Parti communiste. Il a été l'élève de mon frère au lycée, l'élève de philosophie de mon frère. Et je suis en mesure de dire que j'ai accompagné ses premiers pas journalistiques en France. Je l'ai aidé à trouver certains canaux professionnels. Il a été un journaliste combatif pendant toute la période de sa présence en France. Lorsqu'il est revenu au Liban, il s'est employé dans le plus grand journal, à l'époque, le plus grand journal libanais, qui disposait d'une relative liberté de ton et d'indépendance, mais qu'au fur et à mesure de l'évolution de ce journal, il a été acquis à 40% d'abord, dans un premier temps, par Rafik Khalil, le milliardaire libano-saoudien, puis ensuite par le prince Talal Ben Abdelaziz, le milliardaire saoudien. De sorte qu'à un moment donné, on s'est demandé si Samir Kassir menait un combat pour le développement de l'espace de liberté dans le monde arabe ou pour la véhiculation des idées de la mondialisation et de la capitalisation financière selon le schéma saoudo-américain. C'est une chose que de dire qu'il est mort sur le champ d'honneur. Certains peuvent penser qu'il est mort sur le terrain du mercantilisme politique. Il faut faire attention à la manière dont les pays arabes ou les populations arabes perçoivent certaines personnes qui sont portées au nu par les Occidentaux. Le journal Al-Nahar a ciblé à partir d'une certaine période, depuis les 5 dernières années, toutes ses critiques sur la Syrie. La critique de la Syrie est justifiable. La Syrie a commis beaucoup d'abus au Liban, mais les principaux partenaires de la Syrie de l'époque étaient les amis de Samir Kassir, c'est-à-dire Rafik Hariri et Walid Jumblatt, qui étaient les principaux bénéficiaires des rétrocommissions de toutes les transactions commerciales. On ne peut pas cibler ces critiques sur la Syrie quand ses principaux bailleurs de fonds sont les principaux partenaires. Il y a eu un différent sur le partage des quotas et tout ça, je ne veux pas en parler sur l'affaire libano-syrienne, le divorce de Hariri avec les Syriens. Mais moi, j'aurais bien compris qu'il cible la Syrie, que ça peut être très justifié, mais qu'il ne lâche pas un mot sur le fait que Arafat, le président démocratiquement élu de la Palestine, qui soit assigné à résidence et sans que ça soulève la moindre protestation, ni chez Samir Kassir, ni dans le journal auquel il travaille, que la corruption généralisée induite par le financier de son journal, Khalil, il ne fasse l'objet d'aucune critique au Liban, la gestion corruptive et hasardeuse de l'économie libanaise que Khalil est amassée avec une dette de 38 milliards de dollars, la gérontocratie latente et pourrie de tous les pays du Golfe, il ne fasse l'objet d'aucune critique. C'est ça que je reproche à Samir, qu'il ait juste privilégié la Syrie, parce que c'était un des objectifs de la politique américaine, mais qu'il passe sous silence tout le reste de la couverture arabe. Ça, c'est impardonnable pour un journaliste qui se veut exigeant avec la vérité. Il aurait pu mener le fond, les deux critiques, il aurait été plus crédible. Mais lorsqu'on est journaliste, on a un rôle d'observateur, on n'est pas un appoint du pouvoir. Et on est un partenaire du pouvoir sur le plan de la critique, pour faire évoluer le pouvoir, lui éviter les dérives et les erreurs. À un moment donné, grisé par la renommée, Samir a oublié son rôle de journaliste et est devenu partie prenante dans le combat qui se menait au Liban contre le monopole syrien. C'est pas pour la libération du Liban de la Syrie. Contre le partage des commissions avec les Syriens. Khalil avait un autre calcul, disait en se débarrassant des Syriens, tout le monopole des transactions financières, économiques et immobilières au Liban se ferait sans partage avec les autres, on le partagerait entre nous, les Libanais, donc on monopoliserait ce qu'on avait partagé avec les Syriens. Ce n'était pas d'un élan patriotique, mais c'était un élan mercantile. Et lorsqu'un journaliste se dit je souhaite que les chars américains viennent à la route, quand il sait que les chars américains ont déjà fait assez de dégâts à Bagdad, c'est un journaliste qui a cessé d'être journaliste, qui est devenu un militant. À partir du moment où on est un combattant politique, on se voit appliquer les règles du combat. On tue avec des mots, on peut se faire tuer par des balles. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'il ne figure pas dans cette dédicace. Et ce n'est pas une omission involontaire.
Je tiens à dire que le livre est vendu là ici. Et surtout à remercier la machine à lire qui a répondu très rapidement, hein, je tiens à le dire, parce que quand le livre a été publié, on a voulu très vite inviter René Labbé sur Bordeaux. On n'avait pas de salle et la machine à lire, quand on lui a proposé, tout de suite, elle a accepté. Elle a surtout mis au mois de septembre, parce que c'est vraiment d'actualité. Alors, ceci étant dit, dans ton livre, tu traites à un moment donné de la démocratie catholique.
Oui.
Bon. Alors, nous sommes ici que le catholique est une liberté de la presse et que la liberté de la presse est un des préliminaires de la construction de la démocratie. Alors, à la lecture de ton chapitre, j'avais l'impression justement que non.
Oui, parce que parfois il y a des libertés formelles et des libertés réelles. Il ne suffit pas de multiplier les journaux, d'orchestrer un faux débat pour donner une apparence de démocratie, alors que toute critique, par exemple, prenons l'Arabie Saoudite, qui a les principaux vecteurs transfrontières, les plus grandes chaînes de télévision panarabes, les plus grands journaux panarabes. Elle a trois grandes chaînes de télévision qui arrosent tout le monde arabe. Trois grands journaux, trois grands mensuels, trois grands périodiques hebdomadaires. Ça ne veut pas dire la multiplicité des journaux, ça ne veut pas dire la multiplicité d'opinions. On simule un débat d'idées, mais en Arabie Saoudite, aucune liberté n'est tolérée. Il n'y a pas la liberté de parole, il n'y a pas la liberté de critique, il n'y a pas la liberté même pour les femmes de circuler dans la rue en voiture ou de se mouvoir librement. Il y a un décalage entre c'est un effet de miroir que l'Arabie Saoudite et l'ensemble des pays arabes essaient de donner d'eux-mêmes, en tout cas les régimes autocratiques, de multiplier les chaînes, de simuler des invités d'honneur pour faire des débats qui ne sont même pas écoutés à l'intérieur de leur propre pays, ces débats-là qui sont faits dans les chaînes satellitaires, dont certains ne sont pas autorisés à émettre dans le propre pays diffuseur. Comme pour l'Internet, il y a pas mal de gens qui peuvent avoir des sites, des débats et tout, mais tous les sites Internet d'Arabie Saoudite, toutes les adresses de messagerie électronique doivent être centralisées, et elles sont centralisées dans un centre qui s'appelle la Cité de la Science et du Savoir. Et à partir de là, c'est l'Arabie Saoudite qui donne droit de cité à un tel site, à un tel émetteur, pour diffuser sa production à l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Certains sites sont taxés, certains journaux sont neutralisés ou sont virusés par principe. Donc, il y a l'apparence de liberté, mais c'est le règne de la censure absolue, avec l'accord des États-Unis, qui sont les grands défenseurs de la liberté de la presse foraine dans la région. Parce que depuis 50 ans, les États-Unis ont entrepris de domestiquer l'opinion arabe par vagues successives, en créant d'abord des radios religieuses protestantes pour essayer de convaincre le maximum qu'ils pouvaient de musulmans à la religion protestante. Puis ensuite, ils ont développé des journaux financés en sous-main par la CIA qui étaient acquis à leur cause. Les deux grands journaux arabes, Al-Hayat et Al-Nahar, ont été longtemps subventionnés par des subsides saoudiens et américains. Et c'est pour donner l'illusion d'une démocratisation, d'une démocratie de la presse, mais en fait c'est pour propager les thèses américaines. Et si vous voyez, si Jebran Tuaimi et Samir Fassir, qui sont du journal Nahar, ont été tués à un moment charnière de l'histoire du Moyen-Orient, c'est parce qu'à tort ou à raison, ils ont été perçus comme les roues dentées de la diplomatie américaine et les propagateurs de la politique américaine dans la zone à un moment de grande exacerbation des relations entre le monde arabe et les États-Unis.
Dans ton livre, tu dis à un moment donné, la production dans le champ intellectuel qui confine le monde arabe à un désert culturel est un fait symptomatique de cet état de fait. Le patrimoine intellectuel arabe renferme 4 millions de manuscrits, infiniment plus que les 70 000 manuscrits grecs ou les 40 000 manuscrits latins, mais bon nombre d'entre eux ne sont ni étudiés ni publiés, alors qu'une telle richesse bibliographique alimenterait des générations de chercheurs et de penseurs.
Oui, par exemple, un auteur comme Abou Nouas, pour ne citer qu'un, qui célébrait les vertus du vin et la gaieté de vivre, il est complètement banni actuellement. Vous serez un hérétique si vous commencez à le lire, ou vous donnez cette ébauche de laïcité. Et les régimes arabes n'ont pas intérêt à favoriser la laïcité parce qu'elle développe l'esprit critique. Ils préfèrent l'esprit de conformisme à partir du moment où l'esprit critique se développe. Vous remettez en cause des acquis du pouvoir. Le fait de bâillonner l'esprit, la liberté de critique et l'esprit critique donne la marge au radicalisme. C'est tout le débat du monde arabe. Ou c'est une démocratisation forcée, impulsée par les Américains, et une démocratisation forcée n'est pas une démocratie, donc c'est contre-productif, ou une radicalisation islamiste qui est aussi contre-productive. Les deux sont le produit d'une politique menée depuis 50 ans par les États-Unis et l'Arabie Saoudite une alliance matérielle qui a eu pour effet d'abord de déstabiliser l'Union soviétique au prétexte que c'était un pays athée, qui propageait l'athéisme dans le monde, alors que l'Amérique, c'est un pays de libre croyance et l'Arabie Saoudite de libre croyance religieuse musulmane. Et donc pendant 50 ans, on a eu l'instrumentalisation de l'islam comme arme de combat pour combattre le communisme. Et à partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée et que l'islamisme arabe se retrouvait sans thème mobilisateur contre un ennemi fédérateur, il s'est retourné contre son ancien parrain, les États-Unis. C'est l'explication. La rupture de l'alliance stratégique entre les États-Unis et l'islam arabe est scellée le 11 septembre 2001. Ce n'est pas une guerre entre l'islam et l'Occident, c'est la rupture de l'alliance stratégique entre les deux principaux parrains de la zone arabo-musulmane à l'époque de la guerre froide. Et Ben Laden est une excroissance rebelle qui a échappé à ses créateurs, de la même manière que la chaîne transfrontière Jazeera a échappé à ses créateurs, qui est devenu aussi une excroissance médiatique rebelle.
On peut pas trop couper, si vous voulez, poser des questions, ou je crois qu'il faut... Non ?
Oui, s'il vous plaît.
Oui, vas-y.
Vous parlez souvent, et je uniquement jusqu'à présent, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, et puis en fait, je dis que vous avez parlé uniquement de l'Arabie Saoudite et du Liban, jusqu'à présent, bon, on commence. Mais il y avait quand même des facteurs de poids, des pays de poids, comme l'Égypte, par exemple, qui représentent quelque chose. Et je crois que dans le monde arabe, tout pays confondu, il y a un taux de traduction d'ouvrages littéraires, scientifiques, etc., qui est ridicule. Je crois qu'on traduit trop ça, le livre arabe. Il y a d'autres acteurs importants. Avant la guerre, il y avait l'Irak, il y a l'Iran. Il y a le Maghreb, il y a l'Égypte, etc. Et en fait, une multiplicité de situations qui aboutissent finalement au résultat à cette dormition de la culture arabe.
Monsieur, il y a très peu de production intellectuelle dans le monde arabe. Les trois quarts de la production relèvent de la tradition du tourash, le patrimoine, ce qui renforce une culture de la tradition et non pas une culture prospective d'avenir. C'est consigné dans le livre. Et les plus forts tirages de la presse, avec les censures, les autocensures et les pesanteurs, ne font pas un livre à succès dans le monde arabe actuellement, tire à 15 000 exemplaires, pas plus. Les plus grands tirages sont ceux qui ont trait au Coran, aux traditions alimentaires dans le monde musulman, les traditions vestimentaires à l'époque omeyyade. C'est tout ce qui a trait au patrimoine à de très forts tirages. Les gens sont plongés avec l'accord des autorités. Plus on les plonge dans le passé, moins ils regardent l'avenir, moins ils sont exigeants sur le futur. C'est une tradition, mais c'est un choix de survie pour les régimes en place, mais c'est un choix régressif pour la constitution d'une plateforme contestataire dans le monde arabe pour la remise en cause de l'ordre établi. C'est dans l'intérêt des pays. Mais il y a un très grand divorce. Vous parlez de l'Égypte, vous dites que l'Égypte représente une puissance. C'est vrai que c'est le plus important pays arabe, mais je crois que depuis la signature du traité de paix avec Israël, progressivement, le rôle de l'Égypte a été marginalisé. Il n'a plus ce rôle actif d'intermédiaire ou d'initiateur d'initiative. Si vous constatez que la première guerre du Golfe, en 1990, l'Égypte a pris l'initiative d'organiser un sommet arabe au Caire, en août 90, pas pour trouver une solution au problème entre l'Irak et le Koweït, pour cautionner l'initiative américaine d'une opération contre l'Irak. C'était la première fois que les États arabes autorisaient un État étranger, hors Israël, à attaquer un autre État arabe. Ça a été en 1990. En 2003, lorsque la deuxième intervention contre l'Irak, c'est exactement l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui ont servi de plateforme, avec la Jordanie, de plateforme de départ à l'opération américaine. Le désert saoudien et le désert jordanien avaient servi de base de départ et les parachutistes s'étaient lancés cela bien avant, une semaine avant, 15 jours avant le début des opérations contre Saddam Hussein. Actuellement, durant la guerre du Liban, quelle a été l'initiative de l'Égypte ? Elle a été complètement silencieuse. L'Égypte entretient des relations diplomatiques avec Israël. Elle n'a même pas convoqué l'ambassadeur israélien pour des explications. Elle n'a même pas rappelé son ambassadeur pour des consultations. Son ambassadeur en Israël, elle n'a pas rappelé pour consultation. pour signifier un mécontentement, un abus contre les violations du droit humanitaire international. Elle n'a même pas convoqué le portier de l'ambassade. Le seul qui a rompu les relations diplomatiques avec Israël, ça a été le Venezuela, un pays non arabe. Il est à 4 000 km du pays arabe. Les deux autres pays qui ont pris des sanctions, c'est le Salvador et le Costa Rica, qui ont rapporté leur ambassade de Jérusalem à Tel Aviv pour se conformer au droit international. Le premier ministre étranger d'un pays quelconque qui est venu au Liban pour soutenir indépendamment de tout ce que Blasi pour d'autres raisons, avant que la France ne fasse un rétropédalage, ça a été l'Iran. Les premiers qui ont débloqué des fonds, ça a été l'Iran. Les États arabes ont tenu une réunion des ministres des Affaires étrangères au Liban pour affirmer leur solidarité avec le Liban. Les ministres sont arrivés à bord d'un avion militaire égyptien, qui, pour atterrir à Beyrouth, a dû demander l'autorisation des autorités israéliennes. L'Égypte représentait, l'Égypte actuellement est en train de tourner sur pied, et elle est sous perfusion des États-Unis. Un jour, il y aura une radicalisation ou une explosion, on dira « Ah, c'est l'islam, et sui generis, il est maléfique ». Mais non, c'est une politique qui aboutit à une situation. On n'est pas criminogène de naissance. Bush parle d'un fascisme-islamisme. Le fascisme est fasciste, il n'est pas seulement islamiste. Lorsque Mussolini, qui était catholique, était fasciste, on ne disait pas qu'il y avait un fascisme catholique, on disait qu'il y avait un fascisme. C'est ça le problème. Pourquoi stigmatiser une religion et non pas un comportement? Hitler était fasciste, si vous voulez, ou naziste.
L'idéologie est là.
Pardon?
L'idéologie est là.
Voilà. Donc le problème, ce n'est pas la religion qu'il est, c'est l'usage qu'on en fait de la religion. La religion chrétienne n'était pas aussi inquisitoriale que ne l'ont voulu le Moyen-Âge. Bon, donc à partir du moment où on stigmatise un comportement plus la religion, c'est nous qui sommes à l'origine de ce divorce de civilisation. Ce n'est pas la religion elle-même. Il n'y a pas de fascisme islamique. Il y a un fascisme qu'il faut combattre, comme il y a un fascisme européen. Il y a des représentants d'extrême droite française en France. Ils sont représentés dans les instances représentatives européennes, financées par les budgets des contribuables européens. On ne dit pas qu'il y a un fascisme chrétien français représenté par Jean-Marie Le Pen. On dit qu'il y a un fascisme. Pourquoi le fascisme est musulman dans les pays musulmans et il n'est pas chrétien dans les pays chrétiens? C'est le problème de ce divorce-là et qui accroît le fossé et l'exacerbation. C'est le rôle prescripteur de l'Occident dans la définition du bien et du mal. Pour lui, quand il y a un fascisme, bon, c'est une erreur de l'histoire, mais quand là-bas, c'est sui generis, pourquoi? C'est ça qui crée l'exacerbation et durcit le conflit.
On ne peut pas... Dans le cas de l'intégrisme islamique, il se fait au nom de la religion. Vous comparez des choses qui sont un peu différentes. Quand vous parlez de Mussolini, était plus
l'islam
socialiste. Pas... Mussolini était socialiste, il n'était pas spécialement catholique, il était catholique comme moi.
Pardon.
Mussolini était socialiste avant de devenir fasciste.
Il est...
Vous avez parlé de Mussolini, oui, il était socialiste avant de devenir fasciste. Il est passé du.
Mais les autres aussi. Il y a des évolutions.
Non, mais je veux dire, il n'était pas spécifiquement. L'organisation fasciste ne s'est pas organisée autour du catholicisme, ni le nazisme autour du
catholicisme. Mais les autres ne sont pas au nom de l'islam, ils sont fascistes par fascistes.
Si, oui,
c'est une interprétation rigoriste d'une religion.
Non, oui,
vous avez des schismes dans la religion chrétienne, vous avez des schismes dans l'islam.
Mais l'intégrisme actuel, ils se réclament eux-mêmes de l'islam, on ne peut pas dire.
De leur interprétation. Tout le monde dans le monde musulman ne partage pas cette interprétation.
Ça, d'accord, ça. Mais c'est pas parce que.
Mais on ne peut pas dire que c'est le fascisme islamique. Ce sont des fascismes par ailleurs de religion musulmane.
Mais on ne peut pas nier le fait qu'eux-mêmes se réclament de la religion.
Mais je peux vous dire une chose aussi, même Berlusconi. Dernièrement, avec la guerre d'Irak, avait parlé de cette supériorité de la civilisation occidentale, par définition, parce que les autres étaient dans l'islam, ce qui est faux. L'islam, la religion chrétienne, n'est pas supérieure ou inférieure, elle est ce qu'elle est. Il y a eu des circonstances historiques qui ont permis son épanouissement. Il y a, ou il n'y a pas, des conditions objectives, des conditions de développement économique qui ont permis une radicalisation ou un épanouissement de l'esprit critique dans le monde arabe, qui fait qu'il y a des radicalisations par rapport à une situation, c'est peut-être une réponse qu'ils pensent donner à leur situation actuelle de crise, et peut-être aussi, au bout d'un certain moment, ils trouveront que c'est peut-être pas ce chemin, mais qu'il y aura une renaissance. Il y en a eu des renaissances modernistes, progressiste dans le monde arabe dans les années 50 et qui a été combattu par les États-Unis lorsque Nasser a voulu faire sa révolution nationale et qu'il a nationalisé le canal de Suez, ce qui est quand même un symbole. Le canal de Suez rapportait 100 millions de dollars à l'Égypte à l'époque. L'Égypte touchait 4 millions de dollars pour une population de 30 millions d'habitants. Et les 96 millions de dollars allaient au trust de la compagnie financière de Suez. À ce moment, lorsqu'il a nationalisé, on n'a pas dit que c'est un nationaliste qui se réapproprie sa richesse nationale. Si vous en souvenez, dans les livres d'histoire, Nasser, à l'époque, avait été comparé à Hitler déjà, alors qu'il n'était que simple nationaliste. On disait, le fascisme arabe est porteur de nazisme. On stigmatise parce qu'une conscience se pose en s'opposant aux autres, en adhérant pour fédérer sa propre nationalité.
C'est pas très flatteur pour Nasser de le comparer aux islamistes actuels.
On a régulièrement. Arafat aussi a été comparé à Hitler. Si vous voyez.
Mais ça, c'est un autre problème. Je pense que la montée de l'intégrisme aujourd'hui et l'islamisme, c'est autre chose qu'Arafat, c'est autre chose que.
L'intégrisme est une chose, le fascisme aussi. Le fascisme est, dans tous les pays, tel quel. Il n'est pas qualificatif. C'est un mode de comportement.
Je crois que cette dame veut dire qu'il y a quand même une instrumentalisation de la religion.
Je ne pense pas qu'il y ait un fascisme islamique spécifique.
C'est ça.
Il y a des fascistes musulmans, il y a des fascistes chrétiens.
Autour de la religion, on peut
c'est votre. Si vous voyez l'analyse sur 1000 ans, l'analyse sociologique des choses, vous verrez que.
Non, mais la question sociologique,
bah, alors, dans ce cas-là, vous avez toute la colonisation de l'Amérique latine par des fascistes chrétiens. Mais on n'a jamais dit que c'était un fascisme chrétien. Toute la dépersonnalisation de l'Amérique latine, des expropriations, c'était un sorte de fascisme. On le faisait au nom de la religion. On n'a jamais dit que c'était un fascisme naturaliste. C'est l'inquisition, c'est le fascisme. On n'a jamais répondu. Mais on introduit toujours à tout. Il ne faut pas accabler une religion par certains de ses individus.
Je pense que personne n'est ici aujourd'hui pour accabler une religion.
Je crois qu'on n'est pas dans un débat, dans un meeting politique. On est là pour présenter un livre. Et justement, dans ce livre-là, il est traité de l'instrumentalisation de l'islam comme arme de combat. Donc, c'est un petit peu ça qu'on retrouve. C'est pas ce que veut dire l'auteur. Ce que veut dire l'auteur, c'est qu'on définit ce fascisme-là comme religieux aussi, et qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Et c'est ça qui est dérangeant aujourd'hui. C'est qu'on stigmatise sur une religion bien spécifique, même s'il existe des intégrismes, comme il existe des intégrismes musulmans, il existe des intégrismes juifs, c'est pas pour ça qu'on dit c'est un fascisme juif. C'est ça aujourd'hui la problématique qui se pose, c'est qu'en Occident, on a tendance, et si vous achetez le livre, vous allez le lire, on a tendance à stigmatiser par rapport à la religion systématiquement. Et ça, c'est grave. Et c'est ce qui crée le fossé, à un moment donné, entre les Arabes et l'Occident. C'est ça aujourd'hui la problématique. Donc on revient un petit peu sur le livre. Dans ce livre-là, à un moment donné, puisque le monsieur a dit à un moment donné qu'il y a des pays, il y a comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Iran. Alors, dans ton livre, tu parles des monstres sacrés, entre guillemets. Il y a la version républicaine et la version monarchiste. Alors, on a l'impression, et souvent des personnes disent, oui, mais comment ça se fait que le monde arabe ne bouge pas par rapport à ce qui s'est passé au Liban et par rapport à ce qui se passe en Palestine ? Est-ce que tu pourrais nous lire un peu selon ce que tu t'es recherché?
J'en reviens à la formule. L'Iran, pendant longtemps, c'était l'allié privilégié des États-Unis. On se réjouissait aux États-Unis et en Israël que l'Iran joue un rôle prépondérant au Liban. Parce que de tradition chiite, le sud du Liban est toujours chiite. L'Iran, il y avait beaucoup de mariages entre la famille des grandes bourgeoisies iraniennes et libanaises chiites. Et à partir du moment où ça a été un rôle souhaité, voulu par l'Amérique pour contrebalancer, à l'époque, le nationalisme était incarné par le sunnisme et Nasser, on a toujours de souhaité que l'Iran ait joué un rôle privilégié et prépondérant au Liban. Et maintenant que l'Iran a changé de régime, on s'étonne de cette prépondérance-là. Saddam Hussein, c'est une personne qui a eu un des monstres sacrés. C'est une personne qui est arrivée au pouvoir en faveur d'un coup d'État fomenté avec la complicité de la CIA. Il est resté au pouvoir de 69 jusqu'en 2003. D'abord en tant que vice-président et ensuite président. Pendant les 10 ans de la guerre qu'il a menée contre l'Iran, ses principaux financiers, ses principaux fournisseurs d'armes ont été la France, les États-Unis et l'Union soviétique aussi. Mais pendant 10 ans, il était paré de toutes les qualités. Il avait utilisé les armes chimiques qui avaient été fournies par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Personne ne s'est formalisé, parce que ça leur permettait de contenir l'Iran. Au même moment, de l'autre côté, il y avait l'Afghanistan avec les talibans qui menaient la même bataille. Donc l'Iran était là, si vous voyez la carte, il y avait d'un côté Saddam qui la contenait par là, et de l'autre côté, il y avait les talibans qui combattaient l'Union soviétique et qui contenaient l'influence chiite iranienne. Pourquoi ça se fait que subitement l'Amérique a changé de stratégie et elle a démoli les deux régimes chiites, sunnites d'Afghanistan et d'Irak, et s'étonner qu'il y a un nouveau péril chiite, et elle s'étonne de la prépondérance qu'exerce désormais l'Iran, tant en Irak qu'au Liban. Ce n'est pas l'Iran qui a été à la conquête de l'Irak, ni à la conquête de l'Iran. Elle a bénéficié des destructions que les États-Unis ont faites de leurs avant-postes sunnites dans les régions limitrophes qui contenaient la puissance iranienne. On ne peut pas toujours faire assumer aux pays arabes et musulmans les conséquences des erreurs diplomatiques et militaires stratégiques des puissances occidentales. Il y avait une autre solution pour se débarrasser de Saddam. C'est vrai qu'il était un dictateur, mais pas plus dictateur que le roi d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on décapite les voleurs. On leur ampute la main, on les décapite au moment pour les adultères. Il n'y avait pas ça en Irak. C'était un État laïque. Pourquoi on trouve insupportable l'Irak, qui est dictatorial, et pas l'Arabie Saoudite? Parce que l'Arabie Saoudite est le principal partenaire financier de la famille Bush. Et pourtant, il n'y a pas de critère de moralité là-dedans. C'est un critère de réalisme qui parfois se retourne contre ses propres auteurs. On a soutenu les régimes arabes les plus conservateurs et les plus rétrogrades, les plus hostiles au progrès, les plus dictatoriaux. Lorsque Mossadegh, à la faveur d'un mouvement populaire, est arrivé en Iran au pouvoir, c'était un dirigeant nationaliste. Il a nationalisé les installations pétrolières. Il y a eu un coup d'État fomenté par la CIA en 1953. On a ramené le char. Et avec lui, 30 000 soldats américains pour le protéger. Pendant 10 ans, il a pratiqué la corruption à vaste échelle. Il y a eu un mouvement de rejet. Et Khomeini est arrivé au pouvoir. Au lieu de se contenter d'un dirigeant nationaliste qui aurait fait des réformes de social-démocrate dans le monde musulman et arabe avec Nasser, on a voulu le combattre. Et la combat, après 10 ans de radicalisation, ça a donné Khomeini. Et Khomeini a donné Hezbollah. On a combattu Nasser. Il y a eu la lutte armée avec Arafat, on a combattu Arafat, ça a donné à Hamas et le djihad islamique. À force de vouloir chercher toujours des Arabes domestiqués, propres à complaire aux désirs des Occidentaux, des stratégies occidentales, il y a un phénomène de radicalisation et de méfiance à l'égard des Occidentaux qui se traduit de plus en plus par une radicalisation du combat. Pour qu'une stabilité, une paix puisse intervenir dans la région, il faut que les Occidentaux cessent de vouloir avoir des créatures à leur solde dans les pays arabes capables de souscrire à n'importe quel désirata. Il faut qu'ils tiennent compte de ce que représentent les pays arabes et de leurs aspirations à la dignité et à leurs intérêts stratégiques. Il n'y a pas seulement le pétrole. Vous savez bien que dans 50 ans, le pétrole sera épuisé, qu'il faudra des énergies de substitution. Pourquoi on autorise l'Iran, avec la coopération des États-Unis et de la France, à se doter non seulement de l'armement nucléaire, mais aussi de l'énergie civile nucléaire pour se pallier les insuffisances, les pénuries de pétrole? Et pourquoi on n'autorise pas l'Iran? L'Iran est encerclé par 6 pays nucléaires. Pourquoi seulement les pays non musulmans ont le droit? Moi, je ne suis pas musulman. Et je trouve que le fait de cette dichotomie-là qui permet d'exacerber les choses, qui oblige les gens à obtenir coûte que coûte certaines solutions. L'Iran a décidé de se doter de l'armement nucléaire lorsqu'il a compris que l'Irak a été abattu parce qu'il n'avait pas d'armement nucléaire et que la Corée du Nord, on la respecte parce qu'elle s'est dotée de l'arme nucléaire. Donc, pour ne pas connaître le sort de l'Irak ou de la Libye, elle se dote de l'arme nucléaire. Quitte à négocier cette capacité-là avec des concessions. Pourquoi subitement les Occidentaux acceptent de coopérer avec l'Iran dans le domaine de l'énergie civile, ce qu'ils ont refusé de faire depuis 15 ans? C'est parce qu'elle est en phase d'accéder à la technologie nucléaire militaire. Si elle n'était pas arrivée à ce stade, jamais les Occidentaux n'auraient fait une offre généreuse. Il ne faut pas toujours attendre la catastrophe pour essayer de pallier une solution. On doit anticiper certaines évolutions. On doit savoir que l'Iran, par exemple, est un pays de 60 millions, 70 millions d'habitants. Que l'Égypte, 70 millions d'habitants, qu'à un moment donné, il aura besoin de se développer pour trouver, irriguer ses terres, essayer de nourrir sa population. L'Égypte souffre de paupérisation croissante. Et qu'à un moment donné, ils chercheront des énergies de substitution. Si on ne leur donne pas les moyens, dans une coopération sur un pied d'égalité avec les Occidentaux, d'essayer de résoudre leur énorme problème démographique et de paupérisation, ils chercheront à se retourner autrement pour trouver leur solution. Sinon, c'est la poudrière. N'attendez pas que le couvercle saute pour essayer d'essuyer les dégâts. Anticipez le taux de qualification de la poudrière pour essayer de trouver des solutions.
On va passer à un point suivant, quoi. Mais revenir un peu sur le livre. Dans ton livre, quand je l'ai lu, je l'ai relu, tu parles beaucoup de traumatismes. C'est-à-dire que les pays arabes ont vécu des traumatismes par leurs dirigeants, d'abord, hein, les républicains, les monarchistes. Et à un moment donné, dans ton livre, tu dis, je lis là, c'est quatre lignes, « Au commencement était la Palestine. L'histoire du monde arabe contemporain demeurera incompréhensible à quiconque ne prendra pas en considération la blessure originelle représentée par l'implantation de l'État d'Israël en Palestine, tant il est vrai que de toutes les grandes dates qui jalonnent l'histoire des Arabes, la date du 15 mai 48 est sans doute la plus traumatique.
Le foyer national juif a été reconnu par les Britanniques en 17...
Pardon ?
Au moment où le mouvement national arabe commençait à se développer. On était en pleine phase d'ébullition nationaliste contre l'Empire ottoman. C'était la première fois qu'un membre de la communauté musulmane de l'Empire ottoman, qui était le successeur du calife, des citoyens de confession musulmane s'insurgeaient contre l'autre musulman au profit du nationalisme. Donc, on avait les prémices du mouvement nationaliste arabe qui se développait lorsqu'il y a eu un foyer national qu'on leur a imposé. Le problème, il y a eu les problèmes de persécution de la judéophobie environ en 19e siècle, au 20e siècle, les persécutions des juifs en Europe. Principalement dans les grands pays de grande civilisation, l'Allemagne et la collaboration française. Mais ce n'est pas au hasard d'assumer la conséquence. Dans la mesure où on peut considérer que c'est une responsabilité collective de la civilisation dans son ensemble, c'était un effort global qu'il fallait supporter. On veut bien qu'il y ait la création de l'État juif, mais il fallait que ça soit accompagné d'un mouvement pédagogique, d'un mouvement de réhabilitation des Palestiniens, de toute une série, un plan Marshall comme il y a eu en Europe, il devait y avoir pour le Moyen-Orient. On n'implante pas et on espère pour qu'ils s'en vont. Cela dit, la création de cet État, Israël actuel, indépendamment des problèmes ayant un rapport avec le judaïsme et l'Europe et sa pathologie, il est situé à l'intersection de la rive africaine du monde arabe, l'Égypte, le Soudan, et la rive asiatique du monde arabe, la Palestine, la Syrie, le Liban. Donc il est à l'intersection de la rive africaine et de la rive asiatique, à l'intersection du couloir syro-palestinien et de son prolongement jordanien, à 200 mètres, 200 km à vol d'oiseau, des gisements pétroliers et des ressources naturelles hydrauliques du monde arabe, qui est un pays, une zone de grand désert, et qui avait besoin de toutes ces ressources énergétiques. Donc il arrive, il brise le continuum stratégique du monde arabe. C'est ce qui fait que le monde arabe, pour son unité, a une faille. Au milieu, au cœur même, il est brisé en quatre. Énergétiquement, hydrauliquement, géographiquement et démographiquement. Et c'est pour ça qu'il a mal formulé à l'époque. Il n'a pas pu formuler cette... Et c'est ce qui fait que ce traumatisme-là est le plus traumatique des traumatismes du monde arabe. Il y en avait auparavant... Le détachement arbitraire du district d'Alexandrette, arbitrairement par la France, qu'elle a donné à la Turquie, pour compenser d'éventuelles négociations pour la prochaine guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu pas mal de faits de droit d'abus, le détachement du district du Khuzestan pour le rattacher à l'Iran en compensation du Koweït, l'amputation de l'Irak du Koweït, qu'ils ont donné parce qu'ils ont aménagé une zone pétrolière non peuplée, c'était le 19e district de l'Irak, ils ont créé le Koweït pour des raisons de besoins énergétiques des puissances anglo-saxonnes. Tous ces traumatismes-là, mais ils étaient dans une zone de continuum. Mais là, c'est un peuplement étranger qui arrive en plus, avec une civilisation étrangère, occidentale, et qui a servi, de par sa politique étrangère, de faire de lance du combat occidental. Lorsque Nasser a nationalisé le canal de Suez, il lésait les intérêts, à tort, on pensait qu'il pouvait léser les intérêts des Français et des Anglais qui étaient les propriétaires du canal de Suez. On a décidé une expédition punitive, Israël, la France et la Grande-Bretagne. À partir de ce moment-là, dans le monde arabe, on a compris que Israël était le fer de lance du combat des Occidentaux. Lorsque, au Liban actuellement, l'Amérique, à 2 mois d'élection, de mi-mandat de Bush, veut marquer des points pour être dans de meilleures conditions pour sa compétition électorale du mois de novembre, et qu'il doit absolument enregistrer un succès qu'il n'a pas enregistré ni en Afghanistan, ni en Irak, il demande à Israël de désarmer le Hezbollah et que ça marche, on a de plus en plus accrédité l'idée qu'Israël est le fer de lance de la politique occidentale dans la région. Donc, au moment où il y a une telle aversion des Occidentaux, mais principalement les Américains, mais comme ils ont les chefs de file des Occidentaux, une profonde aversion à l'égard du monde occidental, Israël est associé dans cette aversion. Pour qu'il y ait une politique de cohabitation, de coexistence, il aurait fallu qu'Israël ne se montre pas comme le fer de lance du combat occidental dans la région, mais qu'elle cherche à long terme à jeter les bases d'une cohabitation qu'elle n'a pas encore su établir. À force de vouloir dénigrer systématiquement les interlocuteurs démocratiquement élus par le peuple palestinien, à force de vouloir toujours poser des conditions préalables à toute négociation avec l'un ou l'autre des partisans, ça crée cette situation de crise qui aboutit à des éruptions de violence de plus en plus cycliques et répétitives et meurtrières.
Oui, est-ce que vous croyez pas que ça ne bénéficie pas particulièrement aux Occidentaux, mais aux États-Unis uniquement? Parce que Israël est un centre névralgique économique de la zone arabe. Du fait que de ce centre-là et des situations géographiques, les États-Unis veulent s'en servir comme point de base, carrément de base économique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire comme un point géostratégique mondial qui ne sert pas justement à l'Europe. Elle ne servira pas du tout même à l'Europe, elle servira d'abord aux États-Unis.
Principalement.
Par voie aérienne et voie maritime. Il n'y a absolument pas pour l'instant d'ouverture pour le monde arabe. Pour l'Europe. L'Europe a du mal à percer justement dans ce domaine, dans ces régions, parce que les États-Unis, par la régence que réalise Israël sur cette zone, Israël bloque et s'enrichit déjà et bloque tout débat économique de cette région au profit des Américains qui projettent justement des installations militaires déjà, géostratégiques et en plus économiques. Il faut savoir que vers l'ex-URSS, Kazakhstan, Kyrgyzstan et tout ça, il y a du gaz en quantité et du pétrole en quantité que Bush est en train d'acheter. Il se bat contre la Chine pour acheter toutes ces sources pétrolières et du gaz. Il faut le savoir.
Les États-Unis se servent d'Israël comme levier stratégique et technologique. C'est un centre de sous-traitance des produits de la technologie. Oui. Mais ce n'est pas uniquement économique. En France même, 40% des entreprises cotées au CAC sont entre les mains des fonds de pension américains, et le plus important lobby en France est le lobby atlantiste dirigé par le MEDEF, parce qu'il y a 40% quand même des grandes entreprises françaises sont tenues par les fonds de pension, et politiquement elles sont symbolisées par Nicolas Sarkozy, le candidat de l'UMP à la présidentielle de la droite française. Donc avant Israël joue sa propre stratégie et celle de l'Amérique pour le tiers-monde dans la zone océan Indien pour le Moyen-Orient, mais le lobby américain en France est d'abord français. Il n'est pas, ne pensez pas que l'Amérique utilise l'Israël pour contourner l'Europe. Il y a un important lobby, d'abord les Anglais, comme le disent Tony Blair, vous savez bien que c'est le caniche de Bush, c'est ce que les journaux anglais disent, et en France, il y a aussi des...
Sarkozy n'aime pas la durée.
C'est le chef de file du lobby atlantiste. Et si Chirac a été très gêné par la dernière opération du Liban, car après tout, c'était un pays qui a des relations millénaires avec la France, le Liban, qui est un peu son enfant chéri, comme on dit. Si vous remarquez qu'il a parlé du Liban sans jamais condamner les violations au droit humanitaire international commis par Israël, parce qu'il ne voulait pas donner prise à Sarkozy.
Il a été le principal directeur des ONG. Chirac a été le directeur d'une ONG.
Il doit tenir compte de ce lobby
atlantiste. Il n'a pas eu un acte politique. Il a eu un acte d'ONG, de directeur d'ONG. Il a
Oui, moi j'aimerais avoir votre point de vue sur un fait qui vient de se passer pour nous. Il y a une association qui s'appelle Palestine 33 sur Bordeaux, qui travaille depuis 17 ans dans la bande de Gaza. C'est la première fois depuis 17 ans, il y a tous les ans, qu'on n'a pas pu rentrer dans la bande de Gaza. Et on a reçu un courriel de Gaza aujourd'hui, nous disant qu'à partir de maintenant, il n'est plus possible d'organiser des visioconférences avec nos amis là-bas. Le Bingo, c'est une plateforme des ONG palestiniennes dans la bande de Gaza, qui est donc, qui a donc un local, un siège, et qui est équipé avec du matériel pour organiser des visioconférences. Maintenant, les Palestiniens de la bande de Gaza ne peuvent plus techniquement faire des visioconférences qui sortent de la Palestine. Alors, ce que je veux vous demander, est-ce que techniquement parlant, parce que c'est ce qui craint maintenant, après avoir été, comme l'a dit Ilan Mbappé dans un article de Haaretz la semaine dernière, intitulé « Génocide dans la bande de Gaza », et où il ne mâche pas ses mots, c'est tout de même un...
Je viens de le dire aussi, dans Haaretz.
Oui, c'est un... Oui, Ilan Mbappé, oui. Les deux, ils ont sorti un article à peu près en même temps, et ce génocide n'est pas, il le dit d'ailleurs, c'est pas sous la forme du génocide que nous avons subi, où ça a été un génocide massif, c'est un génocide beaucoup plus pernicieux, pour ces mots qu'il emploie dans son article, qui consiste non seulement à verrouiller les frontières terrestres, l'espace aérien et la façade maritime, mais en plus à affamer, car maintenant c'est un camp de la mort lente où l'OMS reconnaît, qui est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, reconnaît qu'il y a un phénomène de dénutrition collective, c'est plus de la malnutrition, c'est-à-dire que c'est irréversible. Et maintenant, il semblerait que la technique va permettre, c'est ce dont ils sont inquiets, de ne plus pouvoir même correspondre par courriel. Est-ce que vous voyez que techniquement parlant, il est possible de nous priver d'envoyer des SMS ou des courriels, des emails, dans la bande de Gaza, techniquement parlant? Puisque vous avez dit qu'en Arabie Saoudite, ils sont capables de bloquer les sites.
En Chine aussi.
En Chine aussi. Ça se prépare dans la bande de Gaza. D'après eux,
en Chine aussi, Google a envoyé Tiananmen et tout ça ne figure pas dans le moteur de recherche. Ils peuvent gommer certaines choses. Mais le problème ici, c'est que vous arrivez à un problème fondamental au-delà de cet aspect technique. Avant la privation des correspondances en vidéoconférence, l'expression légitime du peuple palestinien est préemptée par Israël. Ils ont capturé, quand il y a des soldats israéliens qui sont enlevés, on dit capture, quand il y a des députés légalement élus et des premiers vice-présidents de l'Assemblée, on appelle arrestation. C'est la différence de langage. Et le plus grave danger, ce n'est pas ce problème technique, c'est que si vous vous hasardez, comme Chirac n'a pas osé le faire pour ne pas alimenter l'accusation d'antisémitisme en France. L'accusation d'antisémitisme, c'est l'arme de dissuasion absolue pour neutraliser toute critique à l'égard d'Israël. Et moi, je pense que c'est un mauvais service. Si vraiment il y a des amis d'Israël, ils doivent être critiques à son égard pour l'éviter de dépasser les bornes. Parce que plus on se vit en dehors des normes internationales, on sera perçu comme un État hors la loi. Donc, les amours d'Israël devraient être encore plus critiques que les opposants à Israël, dans leur sens plus petit, pour lui permettre de se maintenir dans les balises et ne pas perdre la raison. D'ailleurs, et ils sont arrivés à tel point dans leur supériorité qu'ils pensaient qu'ils allaient terminer avec la guerre du Liban en 10 jours. Ils ont eu une divine surprise. Et maintenant, ils sont dans l'impasse. Tony Blair est de nouveau arrivé au Moyen-Orient pour essayer de relancer le processus. Chaque fois qu'ils sont dans l'impasse, les Américains et les Anglais essayent de donner un peu d'espoir. Le problème, c'est que je pense qu'il faut donner libre cours à la critique pour essayer de donner au débat un caractère plus sain, essayer de faire atterrir les gens de leur mirage et de leur faux sentiment de supériorité. Parce que si Israël a maîtrisé l'espace et a conquis ce qu'elle voulait, elle n'a pas maîtrisé le temps. Le conflit avec les croisés a duré 150 ans et les croisés se sont retirés. Saint-Louis, un des meneurs de la croisade, est mort en terre musulmane. Il est enterré à Tunis, pas à Paris. L'État d'Israël va presque avoir 100 ans. Il restera encore 50 ans. Il peut maîtriser l'espace, mais il ne maîtrise pas le temps. S'il veut maîtriser, il doit négocier sur des bases de respect mutuel.
Mais là, sur ta question technique, bon, je ne peux pas en France Télécom. Non, moi, je pense que ils peuvent maîtriser techniquement l'interdiction de faire des conférences. Hein, c'est pas, je pense que c'est faisable. Hein. S'ils détiennent toutes les techniques et tous les canaux et l'argent, je pense qu'ils pourront.
Par contre, durant la guerre du Liban, les Israéliens réussissaient pour intimider, mais le Hezbollah aussi de l'autre côté, à envoyer des SMS sur des machines. Ils ont pu capter par des procédés, par des filtrages, des numéros de portables de pas mal de citoyens, des Libanais habitant Beyrouth, ils leur disaient on va bombarder et dégager pour créer de la panique. Mais il y a eu aussi une contre-riposte du Hezbollah qui, dans deux pays européens, je ne sais pas lequel, ont aussi envoyé des messages d'intimidation à des habitants de Haïfa, Tel Aviv, disant on va bombarder, dégager. Donc, il y a des techniques, mais moi, c'est hors de la sphère de compétences.
Mais je voulais dire que, d'abord, par rapport à ce que vous disiez de Chirac, qui n'a pas osé, mettre en cause Israël. C'est le cas aussi de Jacques Lang, que j'ai entendu à la radio, il parle pas d'Israël, en parlant du Liban, quand même, et de Ségolène Royal. Hein, donc Chirac, non, c'est une remarque que j'insiste, mais il n'y a pas que Chirac, personne n'ose en parler.
Pardon, Chirac, en un an, son fils préféré a été assassiné, et l'œuvre de son fils préféré, Khalil, la reconstruction de Beyrouth, a été déduite par un pays ami de la France. Mmh. C'est ça, pour Chirac, c'est une équation personnelle particulière. Lang, ce n'est pas le copain de Khalil, il n'y a rien dans la reconstruction de Beyrouth. Mmh, Chirac a été trois fois. Depuis l'indépendance du Liban jusqu'à maintenant, Mitterrand a été une fois au Liban en visite officielle. Personne, aucun président français n'a été au Liban. Et il a été lorsqu'on a dynamité le quartier général français. Et Chirac, lui, a été trois fois. Trois fois quand Khalil était au pouvoir. Donc, il y a un lien personnel. Et c'est ce qui a faussé la relation entre la France et le Liban. Le fait que la relation d'État millénaire se soit transformée en relation privée. Donc, à un moment donné, on savait plus si c'était dans l'intérêt de l'enchérissement de Khalil ou le service de la France.
Ce que vous disiez, ça me, sur la création d'Israël, ça me faisait penser effectivement, vous l'avez dit à l'instant, qu'on réactivait une vieille blessure qui venait des croisades. Oui. Alors, le rapport de l'Occident, le livre de Malouf, là, les croisades vues par les Arabes, est très intéressant à cet égard. Mais alors, la question que je me pose, c'est que l'on trouve à l'Occident une telle mauvaise foi ou la politique de deux poids, deux mesures, etc., on le retrouve dans le vocabulaire, par exemple, quand on dit les terroristes palestiniens. Maintenant, ce n'est plus les terroristes, il y a les progrès, c'est les activistes. Mais je n'ai jamais entendu dans la presse ou dans les médias européens ou français parler de résistants palestiniens, par exemple. Hein, bon. Donc, il y a. Qui est cet
engagement?
Oui, justement. Qui est cet engagement partiel de l'Occident aux côtés d'Israël? Bon,
c'est le rôle
prescripteur. Mais la question que je voulais vous poser, c'est. Il est incompréhensible qu'on assiste à un manque de solidarité totale à cet égard des pays arabes. Il n'y en a pas un, alors qu'ils ont des outils. Ils ont le pétrole, ils ont des pétrodollars, ils ne manquent pas de biscuits, il n'y en a pas un qui...
Alors je dois rectifier votre vocabulaire. Le manque de solidarité, pas des États arabes, des régimes arabes.
Oui.
Les régimes arabes, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte,
le
Bahreïn. Éradiquer tout esprit de résistance dans la mesure où c'est Israël qui fait le sale boulot et que le monde arabe soit neutralisé, ils ne seront plus contestés, donc ils vont se perpétuer au pouvoir. Si on élimine Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique et les sunnites d'Irak qui font la guerre armée, la lutte armée, il n'y aura plus de contestation, donc ils peuvent continuer. Est-ce que c'est normal que le jour de l'invasion de l'Irak, l'invasion d'Irak lorsque l'a envahi le Koweït, le jour de l'invasion Kuwaitienne par l'Irak, un prince saoudien claque 28 millions de dollars sur les tapis verts d'un casino à Cannes. Est-ce que c'est normal ça? 28 millions de dollars, moi je peux irriguer une dizaine de villages. Je peux construire 3 villages détruits au Liban. Donc, si vous voulez qu'on continue à ce mode de vie, on exploite le pétrole bon marché au bénéfice des entreprises occidentales et que la survalue soit déposée chez les occidentaux. Et pour compenser, durant la guerre du Liban, l'Arabie saoudite a condamné le Hezbollah. Il s'est trouvé un ulema saoudite pour dire que les chiites sont des hérétiques. Déjà, il y avait la bagarre entre les Kurdes et les Arabes, ensuite les chrétiens et les musulmans, les kabyles et les non-kabyles, maintenant on a entre les chiites et les sunnites. Pendant la guerre du Liban, les un mois, l'Arabie Saoudite a signé trois contrats. Un avec la France, 3 milliards de dollars. Un avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, 70 milliards de dollars. Un avec les États-Unis, 70 milliards de dollars. Chacun des contrats avec, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis a rapporté au gendre du ministre de la Défense 65 millions de dollars de royalties. À quoi vont servir 103 milliards de dollars d'armement à l'Arabie Saoudite, le pays qui n'a jamais fait la guerre à personne, à faire des rétrocommissions pour lui, à trouver du travail aux entreprises d'armement américaines, donc à s'assurer de la protection des Américains, quitte à financer leurs menées en Irak, en Afghanistan, en Afrique ou en Amérique. Il n'y a pas de solidarité. Il se trouve que, au début de la découverte du pétrole, on a installé, les Américains ont installé les Wahhabites au pouvoir en Arabie Saoudite. On avait installé les Hachémites dans les zones pétrolières. On a préservé les jeunes du Koweït, on les a gardés des petits morceaux. Le Koweït, on a accentué son protectorat britannique pour le détacher définitivement de l'Irak. Et c'est ainsi qu'on s'est réparti le pétrole en fonction des Anglais ou des Américains. Mais ils sont toujours là. Ils protègent leur ravitaillement, qui est le nerf de l'industrie, le nerf du système énergétique mondial, la zone du Golfe. Ça leur permet d'avoir de l'aisance pour les autres et de donner l'illusion du progrès. En Arabie Saoudite, on en est encore. La dernière grande bataille, c'était bon, c'était que les femmes puissent conduire. On ne leur demande pas d'aller en bikini. Qu'elles conduisent, c'est tout. Et ça, c'est l'Amérique tolère ça. Est-ce que vous savez que les deux pays qui ont le plus de nombre de condamnés à mort et exécutés sont les États-Unis et l'Arabie Saoudite? Et pouvez-vous m'expliquer cette alliance contre nature entre le premier pays qui est la plus grande démocratie du monde, qui se dit la première grande démocratie du monde, et le pays le plus rigoriste du monde? C'est quoi ça? C'est des alliances d'intérêts. Après tout, si vous voulez éviter une radicalisation, l'Arabie Saoudite est le meilleur allié arabe des États-Unis. Il a proposé deux plans de paix, en 82 après le siège de Beyrouth, et en 2004, après le 11 septembre. Aucun des plans n'a été autorisé. Mais par contre, la Palestine, à qui devait revenir 40% du territoire d'ancienne Palestine, elle se retrouve maintenant avec 20% du territoire global, et à l'intérieur du territoire global, 8% sont gangrénés par des colonies de peuplement. Et on n'en a pas fini encore de construire. Où est la paix? Pourquoi c'est toujours les Arabes qui doivent être à faire des concessions, avancer? Si vous voulez quelque chose d'équilibré, il faut être équitable. Sinon, on aura toujours une zone conflictuelle. Et elle n'est pas d'origine criminogène arabe ou musulmane. Il peut aussi y avoir d'autre côté des criminogènes.
Oui, je crois, pour répondre à ta question, quand tu dis c'est incompréhensible que les régimes arabes, je crois qu'il faut éviter d'avoir une vision, je ne dis pas raciste de l'histoire, mais raciale. C'est pas parce qu'on est arabe qu'on doit soutenir systématiquement. On fait des choix politiques aussi. Ce sont des régimes qui ont fait des choix politiques. Ils ont leur soutien externe, ces régimes-là. Et moi, je vais jusqu'à dire que tous ces régimes arabes n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un État palestinien. Pourquoi? Parce qu'il sera et démocratique et laïque. Et ça, dans une région qui se veut religieuse, qui implante et qui utilise la religion comme un instrument de pouvoir, etc., n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un État de ce type-là.
Mais voilà. Je suis d'accord.
Attendez, on va donner la parole à Sakine là-bas, puis on va revenir sur un des chapitres. Là, je voudrais qu'il me donne une explication un petit peu. J'ai lu sur le chapitre 6. La génération, je connaissais les analphabètes, mais de là tu parles de la génération des analphabètes secondaires. Mais on va d'abord prendre la question de Sakine.
Oui, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté ce matin France Inter, mais moi j'ai appris quelque chose, en fait Juste Blasi nous a appris quelque chose quand même, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction de journalistes. C'est, il a employé le terme que ce n'était pas une guerre au Liban, mais que c'était une frappe disproportionnée. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais
qu'est-ce que
vous
en pensez? C'est la seule mot qui se trouve que c'est Chirac qui l'a utilisé, non?
Non, ce matin, c'est... Enfin, moi, j'écoutais ça,
oui, ça. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Oui. Chirac, la première conférence, déclaration qu'il a faite, malheureusement, il l'a faite à la veille du sommet des G7 à Saint-Pétersbourg. Il avait dit, il pensait, comme les Américains, selon le schéma du Kosovo, que Israël éradiquerait le Hezbollah en 10 jours. Voilà. Power strategy, comme on dit, la stratégie de supériorité aérienne de bombardement massif, comme ils avaient pratiqué au Kosovo. Et donc, lorsqu'ils ont vu que les choses marquaient le pas, Chirac avait dit qu'il faut des mesures coercitives à l'égard de Hezbollah. Le premier terme qu'il a utilisé, 50 ans après l'expédition punitive de Suez. Donc, il y avait les mêmes réflexes coloniaux, crispations coloniales françaises. Lorsque les choses ont commencé à marquer le pas, et que son chouchou, le Premier ministre pro-Hariri, Senyora, était à deux bords de la démission parce qu'il ne pouvait plus soutenir. C'est un gouvernement qui a fait le pari de la France et de l'Amérique, et les deux pays soutenaient Israël. Donc il allait imploser, alors que c'est le Hezbollah qui canardait. Donc il a commencé à dire disproportionné. On lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, je ne veux pas, je vais me laisser une marge de manœuvre pour pouvoir influer positivement sur Israël. Et à ce moment-là, le Monde avait fait un éditorial en disant, on se réjouit, la France se laisse une marge de manœuvre. Dosto Blasi a toujours été à Beyrouth, quatre fois. C'est toujours pour voir le Premier ministre, qui n'a pas d'assise populaire, alors que c'est le Hezbollah qui est populaire, alors que le chef de la plus grande coalition chrétienne, le général Aoun, était hostile au rôle diplomatique de la France, pour des raisons qui sont propres au Liban, que le président chrétien du Liban, pour la première fois dans l'histoire, était contre la France, parce qu'elle soutenait une minorité pour le bénéfice d'intérêts propres des États-Unis et de la France, mercantile, et non pas dans l'intérêt du Liban. Donc, à ce moment-là, il a dit disproportionné. Pour suggérer un début de condamnation et pour s'attribuer une marge de manœuvre. Et il a envoyé Dosto Blasi en Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit à Ehud Olmert à ce moment-là? Pour vous dire le poids de la diplomatie de la France, Ehud Olmert, après avoir reçu Dosto Blasi, a dit « Il est sympa, Dosto Blasi, quand on discute du mondial, on est d'accord sur tout. Pour les choses sérieuses, je négocie avec Condoleezza Rice. » Voilà en année la diplomatie française. Il n'y en a plus. Le principal acquis de la diplomatie française des 50 dernières années, c'était l'Irak. Il a implosé.
Oui, mais de là à dire que ce n'était pas une guerre, mais des frappes, enfin, je ne sais pas, je sais pas si vous avez entendu ça ce matin.
Mais non. C'est à l'image de la France actuelle. Là, oui. Ça n'est ni un diplomate, ni un ministre, ni une affaire des affaires étrangères. Il n'y a rien. Mais il dit ce qu'il veut maintenant. Mais il ne sent plus rien. Vous vous rendez compte, c'était le commandant en chef de la FINU de la France. Et qui a mené un combat pour que ça, qu'on essaie de neutraliser cette guerre-là, enfin qu'on réduise sa durée, et que maintenant, il avance à reculons et dit bon, j'assure la présidence jusqu'en février, ensuite je cède la place aux Italiens, et que la conférence sur la reconstruction du Liban s'est tenue à Stockholm, et la première à Rome, sur le plateforme politique, et rien en France, alors que c'est la puissance titulaire du Liban, c'est elle qui a créé le Liban, qui a instrumentalisé et institutionnalisé le communautarisme, qui a adopter la communauté maronite comme relais de sa politique régionale, la France n'a plus rien. Elle est fâchée avec l'Iran, fâchée avec la Syrie, fâchée avec les chiites qui sont majoritaires en Irak et au Liban. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est alliée avec l'Arabie Saoudite qui est sous la coupe des Américains, elle est alliée avec les Égyptiens qui est sous la coupe des Américains, elle est alliée avec les Jordaniens qui sont sous la coupe des Américains. Qu'est-ce qu'il lui reste? Un patriarche maronite?
En tant que journaliste, est-ce que vous pensez, vous l'avez coécrit dans votre ouvrage, une possibilité de faire un espace géostratégique et commun au monde arabe, la Palestine et Israël? Est-ce qu'il y a une possibilité d'envisager quelque chose qui mènerait vers la paix? Voilà. Est-ce qu'il y a un noyau de quelque chose qui pourrait être cultivé, que nous, Français, nous pourrions soutenir pour construire la paix ou soutenir une paix possible? Y a-t-il un noyau de quelque chose existant ou à venir?
C'est un choix révolutionnaire. Reste à savoir si Israël acceptera de renoncer à son caractère juif. Moi, je suis pour un État multi. D'abord, le Liban est multiconfessionnel. Je suis né dans un pays blanc, noir, musulman, chrétien. Je n'ai pas d'État d'âme particulier. Ça ne dépend pas uniquement des Arabes. D'abord, est-ce que Israël accepte de se diviser dans son. Au lieu de capitaliser ce qu'on appelle, ce qu'a Norman Finkelstein a dit, l'industrialisation de l'Holocauste, l'exploitation de la souffrance pour la captation du monopole de la commisération dans le monde, s'en servir dans des buts politiques au service d'un dessein impérial américano-israélien? Est-ce que l'Amérique acceptera de se lancer d'un bâton musclé dans la région d'un gendarme régional qui fait défaut depuis la défection du chef d'Iran. Ça, la réponse ne dépend pas exclusivement des Arabes.
Est-ce qu'à côté d'Israël, il n'y a pas derrière les religieux quand même un mouvement qui se crée et qui monte en puissance et qui s'imprègne aussi dans les pays voisins? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
C'est-à-dire que pour qu'une telle idée se concrétise, il faudrait que ceux qui sont périphériques à la zone évitent de prêcher la pureté révolutionnaire, la dureté. C'est-à-dire tous les lobbies américains, les néoconservateurs, les conservatismes, le sionisme chrétien aussi, poussent à la braise en faveur de l'avènement d'un nouveau Christ qui permettrait le triomphe de la chrétienté dans le monde et au-delà. La conversion des juifs à la chrétienté qui nous dit.
C'est l'alliance israélienne avec les États-Unis.
Ça, c'est Bush.
Yeah, avant de terminer là,
c'est
intéressant
la question
que vous avez posée. Oui, c'est un alphabet secondaire, parce que je savais qu'il y avait des analphabètes déjà en japonais, parce qu'ils ont fait des études, mais là tu parles d'analphabètes secondaires. Alors tu nous expliques un peu ça, puis on va conclure.
Ben, les analphabètes, ce sont ceux qui ne savent pas lire et écrire en principe, ou qui savent déchiffrer. Un analphabète secondaire, c'est pas dire, c'est un nom comme vous voyez. Qu'on surcharge d'infos, de contre-infos, de désinfos, avec des démentis, des machins. C'est toute la stratégie médiatique. Moi, je suis professionnel, donc je sais quand telle information sort de telle source, quand c'est Ponto du Point qui sort une info, je sais que c'est le service de renseignement français, vous n'êtes pas supposé le savoir. Quand il écrit tel type, Villeneuve fait une émission dans TF1, pour ne pas citer le nom, je sais qu'il est proche des anciens paras, donc je sais qu'est-ce qu'il veut. On vous surcharge d'infos, de désinfos, de contre-infos, et on démonte la vraie et on confirme la fausse, vous êtes désorienté. On peut, par exemple, au Liban même, considérer que le Hezbollah, si on veut faire une analyse radicale, a mis un coup d'arrêt à la mort israélienne. Il n'a pas gagné militairement. Il a psychologiquement et symboliquement imposé un temps d'arrêt à la puissance militaire. Pour cela, il est moralement victorieux, même si militairement, ça a été une catastrophe pour le Liban. On peut penser comme ça, si on met le conflit dans une perspective de long terme, ce qu'il y avait il y a 50 ans et ce qu'il y a maintenant. Il a bombardé, il a riposté, il a fait un sursaut de dignité, et son attitude est comparable aux Spartiates du passage de Thermopyle pour ceux qui aiment l'histoire grecque. Mais c'est Thermopyle.
Ouais.
Bon, ça c'est une analyse en profondeur, et on voit les projections. Ça, les Israéliens l'ont compris, les Américains. Mais qu'est-ce qu'ils disent aux Libanais? Vous avez vu le Hezbollah? Il se comporte comme lui-même. Partout on dit, mais le Hezbollah est soutenu par l'Iran. On doit dire aussi qu'Israël est soutenu par l'Amérique, qui a fait un pont aérien pour la fournir. L'Amérique est la meilleure alliée de Hariri, le Premier ministre, et des alliés de l'Amérique. Les meilleurs alliés de la majorité gouvernementale libanaise sont la France et l'Amérique, qui était du côté d'Israël, qui a démoli le Liban. Mais ça, on ne leur dit pas. Donc, oh, il y a destruction de la saison touristique qui promettait 70 millions à terminer. Ça, c'est de la désorientation. Votre cible prioritaire, c'est l'alimentaire, alors que le machin, c'est la stratégie à long terme. Peut-être que le Liban a été détruit maintenant, mais il va refonder sur d'autres bases. C'est parce qu'il y a eu de mine que Hariri a été évincé, parce que sinon toute la région était sous l'hégémonie israélo-américaine. Il y a des poches de survivance qui fait que maintenant, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait imposé un délai expirant le 30 août à l'Iran. Le délai a expiré. L'Iran n'a pas cessé sa recherche nucléaire et on n'a pas matraqué l'Iran. Il y a un module. Pendant 4 ans, l'Amérique et Israël étaient sur l'offensive. Et depuis juillet, le 12 juillet, ils sont sur la défensive. Ils chercheront les parades, il prendra du temps, mais ils sont sur la défensive. L'Iran, Dostoevsky, votre référence intellectuelle
suprême. Non,
c'est des blagues, attends, ouais.
Il était
a beaucoup de fous, quand même.
Il était. Je pense à l'humour. Dostoevsky, qui est à l'avant-garde, c'est lui qui était à l'avant-garde pour des sanctions contre l'Iran. À Beyrouth. L'imbécile, il a été voir l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères iranien à l'ambassade de Rome, il voulait que ce soit Katimini. C'est le ministre français qui a été rendre visite au ministre iranien. Ah, il y a 10 ans, ça serait passé autrement.
Il a dit, l'Iran a un rôle stabilisateur. Il est venu ici, bon, il y avait les journaux Bouygues et tout ça, mais il a dit qu'il pourrait jouer un rôle stabilisateur. Mais non, lui, il cherche la négociation. Il cherche la négociation avec l'Iran. Parce que sinon, si on frappe l'Iran, toute sa famille, là, elle part. Les 2000 soldats français et les 14 chars, Leclerc qu'on a fait débarquer à Beyrouth, c'est pas pour la défense du Liban, ça je vous le dis. C'est pour faire des démonstrations de l'efficacité pour le vendre à l'armée iranienne, à l'armée libanaise. Mais c'est l'Amérique qui ne veut pas vendre du matériel français à au Liban. Elle veut que ce soit du matériel américain. Voilà les alliés qui se disputent un pays sinistré, qui n'a pas d'argent, dont l'ami Khalili a laissé 38 milliards de dettes et qui veut encore lui vendre des armes défensives, aucune aviation, aucune marine, pour qu'il soit toujours soumis à l'autorité d'Israël. Alors pour se défendre, on va faire des kamikazes, eux seront des terroristes. Et si on leur donne des avions, ils ne seront pas des terroristes, ils bombardent comme les autres.
C'est ça. Donc,
l'alphabet secondaire, c'est celui qui est désorienté de sa cible principale.
Jacques Chirac passe pour un gros finul du Canada. Bon, fini, dernière question.
Oui, je suis un petit peu gêné par la logique des, un petit peu de bloc, comme ça, autour d'un côté les Américains, on va dire, logique, et puis d'autre côté les islamistes. Parce que bon, j'ai vu aussi dans un article bon, de vous, de Yoraz Voltaire, vous disiez, Nasrallah, il est quelque part tolérant, puisqu'il a la plus grosse boîte de Beyrouth à côté de chez lui, donc c'est qu'il tolère pas la licence. Mais bon. Alors moi, j'avais d'autres témoignages qui disaient il y a une forte pression dans les quartiers Hezbollah pour que les gens portent le voile, etc. Donc la question, mais ça, c'est, bon, c'est la question factuelle, mais plus globalement, la question, c'est que les mouvements aujourd'hui d'émancipation, de résistance, sont des mouvements qui ne sont pas porteurs de progrès, qui sont au contraire porteurs de régression. Et donc, dans cette logique-là, on voit que l'ensemble des mouvements qui, peu ou prou, porteurs un petit peu de progrès, sont affublés d'une image de corrompu, ont été plus ou moins achetés. C'est vrai pour la Palestine, c'est vrai pour le Liban. On a entendu parler que Ahmed Correille vendait les briques qui construisaient le mur. Donc la question, et pour moi, l'image du fascisme habituellement, c'était un mouvement qui était créé pour contrer des mouvements de résistance progressiste qui se créent. Donc, l'histoire de l'Europe, c'est ça. Les fascismes sont contrés face à des mouvements d'émancipation pour s'opposer. Or là, on n'a pas du tout cette dynamique-là. On a des mouvements progressistes qui se sont effondrés et des mouvements de résistance qui sont porteurs d'un idéal régressif. Donc, quelle porte ?
D'abord, je voudrais dire que l'effondrement du mouvement progressiste arabe résulte de deux choses. L'effondrement de l'Union soviétique, la collusion de l'Union soviétique avec certains régimes arabes à l'époque, elle a sacrifié certains de ses dirigeants. Lorsque le Soudan progressiste et la Libye, soi-disant progressiste, ont dérouté un avion de Abdelkhad et Marjou et de Hachem Rabat, les auteurs d'un coup d'État qui avait réussi à prendre le pouvoir en Soudan, et que Kadhafi et Nimeri avaient exécuté les dirigeants communistes, l'Union soviétique n'a pas cessé son attaque. Elle a continué à les aider. Lorsque Farjad Ahel, le fondateur du Parti communiste libanais, a été dilué dans l'acide par les services de renseignement syriens, l'Union soviétique, pour des raisons de stratégie, a gardé sa coopération avec la Syrie. Elle aurait dû leur dire, voilà, on vous aide, mais vous ne touchez pas aux communistes. C'est vrai que c'était des athées par rapport à l'idéologie dominante traditionnelle arabe. Donc, l'affaiblissement du mouvement progressiste résulte d'abord de l'effondrement de l'Union soviétique et de sa collusion avec les régimes arabes, et de l'instrumentalisation de l'islam par l'Amérique et l'Arabie saoudite en tant que combat contre l'athéisme. Quand on a été communiste dans les pays arabes, on a été mal vu. C'est pour ça que le communisme n'a pas beaucoup pris dans le monde arabe, parce que vous êtes athée. C'était un argument dur. Même pour Nasser, tu es allié des années de l'Union soviétique, tu es allié avec un pays athée. Et ça a été la propagande saoudienne contre Nasser. Ça, c'est pour l'effondrement général des mouvements progressistes. En ce qui concerne le Hezbollah, d'abord, le Hezbollah et Emile Lahoud, le président libanais, qui est boycotté par la communauté internationale, sont les deux forces politiques qui n'ont pas été impliquées dans la guerre du Liban et qui n'ont pas du sang libanais qui souille leurs mains. C'est les seuls. Tous les autres sont des criminels de guerre. Et c'est ceux-là avec lesquels les Occidentaux traitent la France. Elle passe son temps à voir Jean-La, qui était un des grands miliciens, Halil, qui était le bailleur de fond de toutes les milices libanaises qui ont entraîné la destruction du Liban et son rachat par Halil. Donc, ces deux forces-là n'ont pas été impliquées dans la guerre du Liban. Et Nasrallah, il n'a jamais cherché à interférer dans le mode social de la vie libanaise. Il m'est arrivé de discuter avec des gens du Hezbollah pour des raisons professionnelles à Paris, dans des restaurants ou ailleurs. Et j'ai jamais modifié mes modes de vue. Jamais ce sens. Chirac, quand il reçoit un dignitaire musulman, s'abstient de servir de l'alcool à table. Moi, j'ai toujours bu de l'alcool. Juste pour tester la. Ils n'ont jamais fait l'embarque. Ensuite, vous allez à Beyrouth. Vous connaissez peut-être Beyrouth. Le quartier suit. La Dahlia, la banlieue de Beyrouth, est à 500 mètres à vol d'oiseau de la rue Monod, où il y a toutes les boîtes de nuit les plus luxuriantes du Moyen-Orient. Jamais le Hezbollah n'a cherché ni à interférer sur le mode de vie, ni à se réduire le calcul. Même bien pour toi, c'est mixte. Il y a la consommation d'alcool, du jambon, les gens sont sous-vêtus ou survêtus ou dévêtus. Ça ne le regarde pas. Son ciblage principal, c'est Israël et la reconstruction de l'État fort. Parce que si là, c'est substitué à l'État, c'est parce qu'il n'y avait pas d'État qui faisait face aux agressions. Vous voyez maintenant, vous, la phase finale d'un progrès. Mais depuis 20 ans, Israël survole régulièrement l'espace aérien libanais. Il lance des drones, il fait des attaques ciblées, sans que personne n'intervienne, parce qu'il y a une interdiction de l'Amérique, pour des raisons de sécurité d'Israël, que le Liban se dote d'une aviation ou d'une marine. À partir du moment où vous privez le Liban d'une aviation et d'une marine, que vous privez la Palestine non seulement d'une aviation, d'une marine, mais aussi d'une armée, ils n'auront qu'une gendarmerie, les autres. Et comment tu veux résister à l'agression, à l'oppression, au barrage répétitif? Un jour, tes nerfs lâchent. Tu prends le bâton d'une amie plutôt que de mourir dans l'humiliation, plutôt que d'aller te faire traîner par milliers, de faire exterminer, tu te fais saborder toi-même en infligeant le maximum de mal. C'est pas du terrorisme. Si c'est du terrorisme, alors Israël aussi a été terroriste. Israël a pratiqué le terrorisme avec l'Irgun et le Stern. Et les chefs de l'Irgun et du Stern, Yitzhak Shamir et Menachem Begin, ont été reçus officiellement dans tous les pays. Ils ont dynamité l'hôtel King David, où il y avait l'état-major anglais en Palestine, 48 militaires officiers gradés anglais, 500 civils palestiniens ou touristes étrangers. Jamais on les a condamnés. Jamais ils n'ont été condamnés à dédommager. Ils ont assassiné le comte de Bernadotte parce qu'il avait présenté un rapport défavorable à Israël. Jamais Israël n'a été condamné. Depuis la création de la FINIR en 1978 jusqu'à maintenant, Israël a deux fois envoyé le Liban au mépris de la force de paix de l'ONU, la FINIR. Elle a tué 250 soldats, ou elle, ou ses supplétifs de l'armée du Sud-Liban. Jamais elle n'a été condamnée. Jamais elle n'a été condamnée à indemniser les familles des victimes. Jamais elle n'a été obligée à respecter les résolutions de l'ONU. Et c'est elle à qui on demande, qui exige maintenant l'application d'une seule résolution qui est défavorable au Liban dans ses termes, parce que ça sanctionne un rapport de force. Et elle s'exonère des 72 résolutions des Nations Unies depuis la 181 jusqu'à la 242, jusqu'à la 415, qui l'oblige à se retirer définitivement du Liban, à restituer les cartes de minage de la zone du Sud-Liban, à ne pas utiliser des bombes à fragmentation, et tout ça avec le silence complice des Occidentaux. Et vous voulez que ça soit une référence morale occidentale?
Pour répondre aux inquiétudes de Philippe, il a tout à fait tort quand il reconnaît qu'à un moment donné, le mouvement religieux est quand même un des principaux ennemis du régime laïque.
Alors,
l'option laïque au Liban, pour le moment, n'apparaît pas.
Mais c'est l'Amérique qui dit que c'est une acte du mal, que c'est le fascisme. C'est eux qui religieusisent dans le conflit. Au nom de quoi? Ils soutiennent Israël pour la rédemption d'Israël. C'est pas pour l'avènement de la démocratie. C'est quoi la démocratie en Irak quand les principaux dirigeants ont détourné les fonds?
Non, mais je crois que ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on a ici des laïcs, on a une méfiance extraordinaire contre les curés. alors qu'ils soient musulmans, juifs ou catholiques, on est inquiet. Hein, parce que c'est vrai que les curés, ils finissent par rétablir un ordre fermé et antidémocratique. Et il y a plus grave que ça. On va donner la parole à Françoise. On va finir parce que.
Enfin, c'est un. Il est 8 heures. Quand on voit que le Fatah et le Hamas vont se réconcilier. Ce matin, j'ai entendu France Inter aussi. L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, a dit le tort d'Israël, c'est de donner raison, de faire trop confiance.
Ah
oui, ça je l'ai entendu aussi.
Mais est-ce qu'il vous a dit que c'est Israël pour prendre balancer
et qu'il se méfiait maintenant de Mahmoud Abbas, qui serait quand même au service de
l'Israël.
Et je voulais vous dire aussi, j'ai l'impression, en vous écoutant, où je suis assez d'accord, je suis d'accord avec vous, quand je termine la lecture du Monde diplomatique, je me dis toujours, oh là, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà. Et en vous écoutant, je me dis aussi, mon Dieu, enfin, mon Dieu, je suis de
félicitations, maintenant, le temps va se bien aussi.
Je me dis, on n'en est pas, vous avez parlé de 50 ans, de 100 ans, je ne sais pas, quand on connaît le peuple palestinien, on se dit, est-ce combien de temps ça peut durer? Combien de temps ça peut encore...
C'est la question à 100 000 dollars. Pas sur les 10 jours, pas sur les 10 ans. Oui,
c'est
ce que je peux vous dire, il y a deux choses.
La réflexion, mais c'est... On part toujours avec... et on est une chose.
À travers vous, je voudrais répondre à l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur d'Israël. Parce que d'abord, il a été éliminé. Parce qu'il a été jugé trop lourd pour la défense des positions d'Israël. On a mis un pur sucre là. Ils n'ont pas confiance en Mahmoud Abbas. C'est toute la stratégie israélienne de discréditer l'interlocuteur palestinien pour continuer leur colonisation rampante. Deuxièmement, le djihad, le Hamas, etc. Il faut demander aux Israéliens et aux Américains, lorsque pour affaiblir l'OLP, pour éviter de négocier avec l'OLP, on a financé la création d'institutions sur une base religieuse. C'est les apprentis sociaux qui se font arroser maintenant. À force de vouloir jouer avec le feu, on est super bonnes.
Donc on va s'arrêter là. Donc vous avez le livre qui est maintenant tourné pour le dédicacer. Et on reste donc sur des futures mobilisations pour la Palestine.
Oui.
Hein, le livre
oui. Et
le livre 18 euros.
Il y a un livre qui va sortir, c'est le 20e jour.
Le livre
Marianne.